On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation une histoire à raconter. On est au bord de la Vis avec Arnaud, et Arnaud va nous raconter une recette qui nous dit être assez simple.
C'est une recette de crème au chocolat, c'est l'équivalent de la danette en fait, fait maison. C'est une recette que j'ai appris de ma grand-mère en fait, qui me faisait ça quand j'étais enfant, quand j'allais manger chez elle le midi. Elle venait me chercher à l'école, en primaire quoi, et elle me faisait ce petit dessert là. C'était toujours un plaisir en fin de repas de manger cette crème au chocolat là.
Alors tu nous racontes comment on l'a fait, tu peux nous donner les étapes, les ingrédients pour qu'on puisse la faire chez nous?
C'est assez simple de réalisation, c'est juste il faut du lait, 1 litre de lait, il faut de la farine de maïs ou maïzena quoi, 8 cuillères à soupe de maïzena, 5 cuillères à soupe de cacao, plutôt du cacao sans sucre là, du cacao Van Houten ou je sais pas comment l'appeler là, et 4 cuillères à soupe de sucre. On commence par mélanger les éléments secs dans une casserole, donc le sucre, la maïzena et le cacao, tous ensemble comme ça, et après on arrose avec le lait, et progressivement on met à chauffer en même temps qu'on arrose de lait, pour éviter les grumeaux, et on chauffe, et on tourne, et on touille, et on touille comme ça jusqu'à obtenir l'épaississement qui convient, quoi. Et c'est en refroidissant après qu'elle finit par se figer et être vraiment à obtenir sa consistance finale, quoi.
Voilà. On met à peu près combien de temps à la faire la recette?
Ah, je dirais une dizaine de minutes, en tout et pour tout, un quart d'heure maximum quoi.
Tu disais qu'on pouvait faire des variantes avec d'autres choses, raconte un peu.
Alors après oui, on peut remplacer le chocolat par d'autres arômes quoi, d'autres parfums. On peut faire à la vanille en enlevant le cacao mais en mettant une gousse de vanille à infuser dans la préparation pendant que ça chauffe. Ou alors avec du café, avec un fond de café quoi, un bon café quoi, mais... un petit peu de café qui remplace le cacao. Voilà, on peut au moins faire ces deux parfums-là et après on peut faire tous les parfums qui nous passent par la tête quoi.
Tu nous dis que c'était une recette qui te venait de ta grand-mère. Tu nous racontes un peu la première fois que tu as mangé cette recette ou une des premières fois dont tu te souviendrais autour de cette recette.
Quand j'étais à l'école, en école primaire, je rentrais manger chez ma grand-mère souvent le midi, et quand j'arrivais chez elle habitait dans un petit immeuble de 2 étages en banlieue parisienne là, et quand je voyais sur le rebord de la fenêtre les petits ramequins qui attendait patiemment sur le rebord de la fenêtre, je savais que j'allais manger une crème au chocolat à la fin du repas, quoi. Can make me feel the colors that you bring.
Raconte que t'étais, donc, tu allais manger cette crème dessert chez ta grand-mère en banlieue parisienne, donc tu vivais là-bas quand tu étais petit. Tu vis dans les Cévennes aujourd'hui, donc tu disais qu'on était au bord de la Vis. Comment on en arrive de la banlieue parisienne aux Cévennes ?
J'ai grandi dans la banlieue parisienne, ouais, dans la vallée de Chevreuse en fait, et j'ai fait mon service civil en tant qu'objecteur de conscience à la fin des années, au milieu des années 90 on va dire. C'est ça qui m'a amené en fait à découvrir les Cévennes. Donc, j'ai passé 6 mois vivre en forêt, dans une caravane pour entretenir une forêt, et ensuite j'ai fini mon service dans une association à Montpellier et je suis revenu vivre dans les Cévennes au début des années 2000, tout début des années 2000, et depuis je me suis installé là. J'ai fait plusieurs vallées, la vallée de la vallée du Galaison au départ, ensuite la vallée française et puis maintenant le Vigan où je suis installé depuis 2014.
Et t'as eu un coup de cœur, tu t'es dit quoi la première fois que t'es venu dans les Cévennes?
Ah, j'ai beaucoup apprécié le côté sauvage des Cévennes, enfin, ce qui me semblait être sauvage, en fait, ce côté embroussaillement, reprise de la nature sur les activités humaines, là, m'a beaucoup fait rêver, parce que je cherchais justement un endroit comme ça où vivre un peu loin de la civilisation et où la civilisation aurait plus trop de prise. J'ai tout de suite accroché sur les Cévennes et j'y suis resté parce que je m'y sentais bien, quoi. Donc j'ai passé 15 ans, je crois, à vivre dans une maison, dans une ancienne ferme cévenole isolée, à 12 km du village, avec le premier voisin à 1 km, à développer mon activité, ce qui deviendra après mon activité actuelle, quoi.
Oui, alors on peut en parler un petit peu de ton activité, elle est assez, assez particulière, elle est très en lien avec les Cévennes, les ateliers Chattersen, tu nous en parles ?
Je voulais créer une activité qui soit vraiment en lien avec le territoire où je vis. En observant le territoire alentour et en discutant avec les gens locaux, je me suis attardé sur le châtaignier au départ et j'ai rencontré le directeur de la coopérative de la forêt privée, Karl Ozer, là, qui m'a dit « si vous voulez faire quelque chose avec le châtaignier, c'est ça qu'il faut que vous fassiez ». Moi, j'étais parti sur une activité sur la châtaigne et le bois et lui, il m'a orienté sur les petits bois de châtaignier. Et du coup, j'ai découvert des savoir-faire qui se pratiquaient dans le Limousin, autour du petit bois de châtaignier. Et j'ai créé mon activité de menuisier en siège, donc dans laquelle je fabrique essentiellement des sièges, des assises, des fauteuils, des chaises, des tabourets, des bancs, en petit bois de châtaignier, en rondin de châtaignier.
Donc là, du coup, aujourd'hui, tu pars de quelque chose qui est local, ultra local dans les Cévennes, donc du châtaignier, de ces rejets de châtaignier en fait. Et tu en fais des meubles qui sont design, qui sont vendus dans des magasins de meubles design.
Voilà, j'ai mis en lien des savoir-faire traditionnels ancrés dans un territoire avec une pratique moderne et notamment un processus de mise en lumière du matériau par la collaboration avec des designers en fait.
Ces meubles en châtaignier, on les retrouve où aujourd'hui ? Tu as des exemples un petit peu d'endroits connus dans lesquels on retrouve justement ce châtaignier des Cévennes à transformer, redesigner.
Ces meubles, on les trouve dans les boutiques de décorateurs un petit peu partout dans le monde, à Paris, New York, Moscou, Munich, tout ça, et en Asie aussi. Et on les retrouve aussi dans des... Notamment, j'ai fait la terrasse du restaurant du musée Carnavalet à Paris. On a fait la décoration, l'agencement de la boutique de la Villa Noailles à hier. La Villa Noailles, c'est une maison de Robert Mallet Stevens qui a été construite au début du XXe siècle, qui est devenue un centre d'art maintenant où il y a un festival de mode et d'accessoires de mode au printemps, un festival de design et d'architecture intérieure l'été. Et on a fait cette boutique avec François Champsor, qui est un décorateur parisien et marseillais. J'ai fait aussi du mobilier pour un hôtel à Saint-Tropez, des tabourets et des bureaux pour meubler les chambres de cet hôtel. Et voilà, dans plein d'autres endroits, que ce soit des boutiques, des appartements ou des hôtels un peu partout dans le monde. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes.
with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life. Life. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, he said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. And tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer. He shook his head, and as he shook his head.
Alors je reviens au titre de l'émission Cuisiner avec amour. La place de l'amour pour toi en cuisine, c'est quoi?
C'est essentiel, c'est la base, c'est primordial. Pour cuisiner, il faut vouloir partager, offrir et donner le meilleur de soi. Donc pour cuisiner, correctement, j'ai envie de dire, il faut y mettre de l'amour, y mettre de la générosité, de l'envie de partager.
Tu parles de partage, de générosité. C'est quelque chose que tu mets aussi en lien avec ton travail aujourd'hui?
Oui, c'est même l'essence de mon travail. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le travail du bois ou l'objet qui va être fini. Tout ça, c'est plus c'est plus le chemin qu'on va parcourir pour arriver à l'objet fini et qui va être en fait maillé de relations avec les clients, les décorateurs et notamment le principal sujet important, c'est le lien avec les décorateurs et les designers avec qui je travaille. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bon feeling qui passe. Et pour qu'il y ait ce bon feeling, il faut mettre la même chose que pour cuisiner. Il faut de la générosité, il faut de l'envie de partager et il faut donner de soi-même comme en amour, en fait. C'est pareil.
Donc tu nous parlais de générosité, d'échange. Tu as des souvenirs, tu as des exemples comme ça qui te viendraient de moments justement où c'est en jeu dans ce que tu fais.
Chaque meuble que je réalise, parce que j'allais dire que je crée, c'est pas tout à fait le mot, parce qu'en fait je le crée pas, je le réalise moi. Chaque meuble naît d'une histoire singulière avec la personne avec qui je le réalise. C'est-à-dire à chaque rencontre, quand le courant passe bien avec un décorateur, avec un designer, en général il en est un meuble intéressant et surtout il m'en reste une histoire singulière que de partage et d'échange avec cette personne. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, quand je parlais de mes meubles avec ma fille, je les appelais par le nom du designer avec qui je l'avais fait, le prénom plutôt du designer avec qui je l'avais fait. Donc il y a la chaise d'Ulysse, il y a le tabouret de François, et le fauteuil de Luigi. Enfin, chaque meuble, pour moi en tout cas, dans mon intimité familiale, on va dire, chaque meuble porte le nom de la personne avec qui je l'ai fait. Après, il porte un nom... un nom commercial, on va dire, un nom pour les clients, mais à l'origine c'est ça. Et donc voilà, chaque histoire, à chaque histoire humaine, de chaque histoire humaine naît un meuble, quoi. Une anecdote qui a marqué un peu mon parcours, c'est au tout début de mes collaborations avec designers, j'ai accueilli Ulysse Bouette, qui est designer issu de l'ENSI, une école de design parisienne. Qui arrive dans mon atelier, il a 19 ans, il est tout jeune, il est tout frais et il me regarde travailler pendant 3 jours et au bout de 3 jours il arrive et puis il me fait « Mais Arnaud, pourquoi tu travailles à l'envers ?» Je le regarde, je fais « Attends, Ulysse, c'est bon quoi, t'as 19 ans, t'as jamais travaillé, tu veux m'apprendre la vie, c'est gentil mais ça va, ça fait quelques années que je travaille, j'ai pas besoin de toi pour savoir si je travaille à l'envers ou pas quoi. » Et puis en fait, sa remarque, elle m'a un peu tourné dans la tête toute la journée et le soir avant de m'endormir, je me suis aperçu qu'il avait raison en fait, que sa manière d'envisager le processus était tout à fait pertinent et qu'en fait si je travaillais à l'envers, mais vraiment complètement différemment, quoi, à l'opposé de ma pratique habituelle, je me facilitais bien la vie, quoi. En fait, il s'agissait de... Quand je perçais mes mortaises, comme j'avais l'habitude de travailler des bois ronds qui ne sont pas toujours réguliers, pas toujours droits et tout ça, je me mettais basé sur le haut du bois et je partais du haut du bois pour percer une mortaise avec à chaque fois la même profondeur. Et lui, il me disait qu'en fait, c'était l'inverse. Il fallait que je parte du fond du bois, que je relève le fond de ma mortaise à une dimension précise et que je systématise ce processus et que j'avais gagné beaucoup de temps dans mon système de fabrication. Et c'est comme ça que je travaille maintenant dans la plupart des cas et je me suis bien facilité la vie grâce à Ulysse qui, à 19 ans, m'a appris la vie finalement. Et mon métier surtout.
C'est aussi le rôle de l'humilité, l'importance de l'humilité dans la vie de manière générale. Tu crois qu'on peut extrapoler comme ça?
Ah oui, tout à fait. Ouais. L'humilité, c'est très important. Savoir effectivement se placer... À une bonne échelle par rapport à l'autre et de jamais se trouver trop au-dessus des autres, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est important, je pense, effectivement, dans la relation, dans les relations humaines. Ouais.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want.
I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd all remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? So you better have some fun, no matter what you do. Nothing compared, nothing compared to you. All the flowers that you planted in the backyard all died when you went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it a try.
Souvent, notamment quand je fais le lien avec le titre de l'émission Cuisiner avec amour, les gens me répondent qu'ils cuisinent pour les autres. Alors toi, tu cuisines pour qui ?
Ah oui, moi je cuisine pour les autres, quasiment à chaque fois je cuisine pour les autres. Je cuisine rarement pour moi quand je suis seul. Je cuisine pour ma fille, je cuisine pour les gens que j'invite, je cuisine pour partager avec les gens à qui j'ai envie de faire plaisir et avec qui j'ai envie de passer un bon moment. J'ai vécu pendant 15 ans dans la vallée française, dans une maison à 12 km du village. J'étais pas seul, j'étais en couple, mais on a vécu comme ça une période de grand isolement, en fait, très éloigné du monde, quoi, qui nous a, je pense, qui nous a pas mal apporté en termes de construction de soi-même, de soi, mais qui nous a aussi un peu éloigné du monde. C'est-à-dire que quand on reste très longtemps isolé, en fait, on se marginalise d'une certaine manière, on se met à l'écart, en fait, tout seul. Ça a été très formateur parce que ça m'a aussi appris, en fait, et donné l'envie de me rapprocher des autres au bout d'un certain temps, parce que je pense que j'ai été arrivé au bout de mon expérience de la solitude, quoi. Et c'est cette expérience de la solitude qui m'a amené à l'envie de partager et de me rapprocher des designers et de faire des collaborations avec eux, de travailler dans un lien étroit avec mes partenaires, quoi. Et d'ailleurs, maintenant je travaille avec des designers, mais je travaille aussi avec des artisans avec qui je collabore sur des projets. Et je pense que sans cette période de ma vie de grand isolement, je ne sais pas si je me serais autant rapproché des gens avec qui je travaille aujourd'hui, quoi.
Alors, on a parlé de cuisine avec amour, donc on a parlé de cuisine, on a parlé de ton travail aussi. Pour conclure, c'est quoi la place de l'amour dans ta vie ?
L'amour, c'est essentiel. L'amour, c'est ce qui m'anime. L'amour de l'autre, l'amour du partage. Et c'est vraiment ce qui me fait me lever le matin et ce qui me fait vivre.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire. C'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délice.
Ça fait déjà plus d'un an, j'ai pas pu souffler les bougies. Bébé, j'ai bien eu ta lettre, mais j'ai eu trop peur de l'ouvrir. Tu l'as aspergé ton parfum, tu savais déjà l'effet que ça me ferait. Le prochain il s'enlacera, moi je pourrais jamais m'en passer. Tout ce que j'aimerais c'est t'enlacer. Je sais pas comment ça t'en a su. J'ai un don, je vois le temps passer comme un con, j'attends la suite. Mais y'a pas d'avenir pour nous deux, tout ce qui s'est passé me paralyse. C'est dur d'accepter l'échec et de se dire que c'est ça la vie. Ça m'atteint comme une maladie, je me demande quand ce mal m'a pris. Autre part que dans tes yeux, j'ai pas pu trouver le paradis. Et j'ai peur quand est-ce que je reprends les armes. Elle pleure, j'ai failli me noyer dans ses larmes. On n'aurait pas dû danser là, à la lueur du candélabre. J'ai bien cru qu'elle était partie, comment ai-je pu penser ça. Ouais, j'ai peur, quand est-ce que je reprends les armes. Elle pleure, j'ai failli me noyer dans ses larmes. On n'aurait pas dû danser là, à la lueur du candélabre. J'ai bien cru qu'elle était partie, comment ai-je pu penser ça. Je sais pas comment te le dire, c'est plus facile dans le noir. Nous deux c'était presque évident, on s'est juste aimé en retard. On a fait que tirer dans le tas. Je sais que c'est dur, mais si tu parles, laisse-moi au moins me dire au revoir. De mon côté, rien n'a changé, je peux pas fournir de preuves tangibles. Mais ton petit cœur est en danger, je crois que j'ai touché un point sensible. Même si tu trouves ça insensé, plus je suis mal et moins gentil. J'aurais trop peur de m'enflammer, je veux pas déclencher d'incendie. On l'a fait à l'hôtel, mais on n'a pas payé la chambre. J'avais tout fait pour ne jamais laisser passer ma chance et je l'ai saisi. Dès qu'elle s'est présentée à moi dans tes tympans, j'ai mis du temps à y faire entrer ma voix. Mais ça se passe jamais comme prévu, et malgré tous nos efforts, c'est devenu triste. Comme une instru sans parole, comme une actrice sans talent, comme un gamin sans parents, comme un univers sans chaos, comme une chute en avant. Et j'ai peur, quand est-ce que je reprends les armes. Elle pleure, j'ai failli me noyer dans ses larmes. On n'aurait pas dû danser là, à la lueur du candélabre. J'ai bien cru qu'elle était partie, comment ai-je pu penser ça. Ouais, j'ai peur, quand est-ce que je reprends les armes. Elle pleure, j'ai failli me noyer dans ses larmes. On n'aurait pas dû danser là, à la lueur du candélabre. J'ai bien cru qu'elle était partie, comment ai-je pu penser ça. J'sais pas comment te le dire, c'est plus facile dans le noir. Nous deux c'était presque évident, on s'est juste aimé en retard. On a fait que tirer dans le tas. Je sais que c'est dur, mais si tu parles, laisse-moi au moins dire au revoir. On se sépare, on se retrouve comme un rituel incessant. On s'essouffle et ça s'est senti. Prendre sur soi, c'est pas si simple. L'impression de jouer à un jeu, un peu d'enjeu, c'est ça qui manque. Bébé, t'es déjà trop fatigué, je t'observe dormir, c'est fascinant. T'es bien trop belle, bien trop fière, bien trop narcissique. J'essaye de donner des conseils, tu te fies aux statistiques. Et t'as jamais su faire de choix, encore moins de sacrifices. La manière que t'as de broyer mon cœur, putain, c'est magnifique. Tu vas encore te casser sans blague, allez par toi, j'en ai plus rien à foutre. Ton cœur glacé est en panne, tu l'as perdu dans la foule. Le tunnel est trop sombre, trop longtemps que je manque de lumière. Je creuse ma propre tombe, en même temps je tente de lutter. Et j'ai peur, quand est-ce que je reprends les armes. Elle pleure, j'ai failli me noyer dans ses larmes. On n'aurait pas dû danser là, à la lueur du candélabre. Je sais pas si elle va revenir, pour l'instant je rêve d'être dans ses bras. Ouais, j'ai peur, quand est-ce que je reprends les armes. Elle pleure, j'ai failli me noyer dans ses larmes. On n'aurait pas dû danser là, à la lueur du candélabre. Putain là je crois qu'elle est partie. Merde.